RCF.
Let's go !
Bruxelles, ma belge, Delphine Fressinet.
L'air du temps, à présent, avec cette réflexion, cette constatation, un taudis, c'est le contraire d'un logement. Définition simple, nette, sans appel de la Fondation Abbé Pierre. Alors, ne pas vivre dans un taudis, habiter un logement décent, c'est un droit garanti par la Constitution belge, mais entre le papier et la réalité... Il y a parfois un mur immense. Le RBDH, Rassemblement Bruxellois pour le droit à l'habitat, qui regroupe une soixantaine d'associations engagées aux côtés des personnes mal logées, publie une étude fouillée, documentée, édifiante sur l'état des lieux de l'insalubrité à Bruxelles. Alors il ne s'agit pas de pointer du doigt les institutions en charge de ce sujet, mais de voir ensemble ce qui est fait, ce qui reste à faire pour lutter réellement contre le mal logement. Carole Dumont est chargée d'analyse et de plaidoyer au RBDH. Elle est l'une des auteurs de cette étude collective. Bonjour Carole.
Bonjour.
Alors l'article 23 de la Constitution belge garantit donc le droit à un logement décent. C'est quoi un logement décent ?
Alors, dans la législation régionale, le droit à un logement décent, c'est finalement donc garanti dans le code du logement. La région, en 2003, a décidé de se doter de normes d'habitabilité minimales qui concernent la sécurité d'un logement, sa stabilité, des installations électriques ou de gaz conformes.
L'hygiène.
L'hygiène, bien entendu, les questions qui se tournent autour de la salubrité, l'absence d'humidité, la possibilité de ventiler son logement, d'ouvrir une fenêtre et des équipements de base, eau froide, eau chaude, pré-équipement de chauffage, etc. Donc en tout cas, il y a un certain nombre de normes minimales de confort de base qui doit pouvoir être respectées et qui s'imposent à tous les bailleurs avant de mettre leur logement en location.
Et alors, quand on parle de logements insalubres à Bruxelles, on parle de combien de logements concernés ?
Alors c'est difficile à dire parce que malheureusement il n'y a pas de données précises sur l'état des logements à Bruxelles. Ce qu'on sait avec certitude, c'est le nombre de logements qui ont été contrôlés par la direction de l'inspection régionale du logement, hein, donc qui est l'institution régionale qui est censée traquer les mauvais logements et les mauvais propriétaires.
Qui a été créée en 2003.
Qui a été créée en 2003, donc au moment du code du logement. Et cette institution, depuis sa création, a visité environ 7800 logements. Alors 7800 logements, ça correspond plus ou moins à 2% du parc locatif bruxellois.
Ouais, comme ça fait peu. Hein.
Oui, nous on est quand même convaincus que 2% ça ne représente finalement que le sommet de l'iceberg, parce qu'il y a des indicateurs qui sont approximatifs mais des indicateurs tout de même signifiants qui laissent à penser que la problématique est de plus grande ampleur.
Oui, vous voulez dire qu'il y a des logements insalubres qui restent en zone grise,
oui,
hein, qui
restent cachés. Oui, tout à fait. Et donc notamment, il y a des données qui concernent l'âge, la vétusteté du parc, hein, qui laissent à penser qu'on pourrait avoir des logements en mauvais état. Beaucoup de petits logements aussi à Bruxelles qui peuvent avoir fait l'objet de subdivisions illégales. Et puis une autre donnée qui, moi, me paraît quand même fort intéressante, qui est relevée par l'Observatoire des loyers, qui est la perception subjective des locataires quant à leur logement. Et là, on a quand même plus de 10% des locataires bruxellois qui estiment que leur logement est en mauvais, voire très mauvais état. Donc voilà, donc on peut bien imaginer qu'il y a un gap quand même entre ce qui est contrôlé aujourd'hui et ce qui devrait l'être.
Voilà, donc la DIRL, hein, la Direction de l'Inspection Régionale du Logement, vous la citez souvent, hein, dans l'étude, on le comprend bien, vous ne la mettez pas à l'amende, mais vous montrez bien qu'elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, et on comprend qu'elle n'a pas grand-chose. Hein. C'est quoi ses moyens pour intervenir, hein ?
Alors, aujourd'hui, la DIRL, elle dispose de 11 enquêteurs qui sont censés contrôler les logements de toute la région.
Ah, donc, 11 pour toute la région, oui, déjà on a tout compris.
Oui, tout à fait, c'est peu. Alors il y a des moyens qui sont prévus par le gouvernement pour essayer de tripler les effectifs au cours de cette législature-là. Et donc on devrait, au terme de la législature, donc en 2024, arriver plus ou moins à 17 enquêteurs. Parce que tripler, ça ne veut pas dire 11 fois 3, il y a d'autres services. Hein. Il y a des services administratifs, il y a des services... un service social qui accompagne les locataires, etc. Mais en tout cas, en termes de contrôle, on pourrait atteindre en fin de législature 17 enquêteurs, mais ils sont hausse pour le moment, donc c'est vraiment très peu. Alors, il faut savoir en fait que en 2003, quand la DIRL a été créée, il était question justement qu'elle puisse soit agir d'initiative, soit sur base d'une plainte d'un locataire. On se doute bien qu'avec les moyens humains dont elle a à disposition, elle peut difficilement faire des visites d'initiative. Donc elle répond uniquement, quasi uniquement en tout cas, trop plaintes aujourd'hui, ça représente plus ou moins 500 cas par an, et donc les visites d'initiative se font à la marche. Le problème, c'est que les personnes qui vivent des situations d'indécence sont des personnes qui ne vont pas toujours oser dénoncer leur situation.
C'est comme au boulot, hein. On peut ne pas être bien au boulot, mais si on n'a pas d'opportunité ailleurs, on y reste.
Oui, donc, tout à fait. D'autant qu'ici, il y a vraiment un risque assez direct, évident, c'est celui des représailles du bailleur qui pourrait être amené à donner le renom au locataire, ou pire, intimidation, expulsion illégale. Donc, le locataire va choisir de rester dans un logement pourri pour ne pas se retrouver à la rue aussi. Donc, voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la lutte contre l'insalubrité repose très fortement sur les épaules du locataire. Et donc voilà, il faut absolument essayer d'inverser la tendance et aller vers davantage de visites d'initiative, en fait.
Mais ça passera uniquement s'il y a plus de moyens, donc, pour la DIRL, la DIRL.
Oui, tout à fait. Mais donc voilà, il y a quand même du personnel qui va être engagé, et nous, il nous semble qu'on pourrait intensifier donc les contrôles et profiter de ces opportunités-là, en essayant d'élargir les actions, mais au plus juste, c'est-à-dire en allant là où on s'imagine bien que les situations d'insalubrité sont les plus aiguës. Et une de nos propositions, en fait, c'est de contrôler systématiquement tous les logements d'un bailleur qui est connu de la DIRL pour être en défaut, en fait.
Est-ce que ces infos, justement, sur les bailleurs qui sont en défaut, qui sont connus des services de la DIRL, Carole Dumont ou RBDH, puisque je rappelle que vous rassemblez une soixantaine d'associations engagées auprès des locataires qui subissent le mal logement, est-ce que ces accès, ces infos, vous les avez déjà ou pas? Non, vous les demandez.
Non, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est que la DIRL, qui connaît, qui va visiter le logement d'un propriétaire qui était en défaut, prenne l'initiative de visiter tous ses logements. C'est ça, en fait, l'idée.
Oui, bien sûr.
Pourquoi ? Parce que, fatalement, s'il y a des négligences dans un logement, il y a quand même fort à parier que les négligences existent ou se soient reproduites ailleurs.
Voilà. Mais est-ce que vous, au sein des associations, vous avez déjà, entre guillemets, enfin, pas une liste, mais vous avez accès à des gens qui sont des mauvais élèves, hein,
Alors nous, au RBDH, non. Maintenant, sur le terrain, c'est évident que les associations qui travaillent au contact des personnes précaires qui vivent dans des logements insalubres connaissent des propriétaires qui sont vraiment problématiques, des propriétaires qui ont déjà été sanctionnés, qui ont malgré tout reloué des logements complètement illégalement sans autorisation, qui continuent à en tirer profit, etc.
Oui. Voilà. Et on comprend bien donc le rôle un petit peu limité, faute de moyens, de la DIRL au niveau des contrôles. Mais est-ce que quand un dossier va jusqu'au bout, est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce qu'il y a des moyens d'action efficaces? Est-ce qu'il y a des amendes, des sanctions? Comment ça se passe pour la DIRL?
Quand la DIRL visite un logement et que le logement n'est pas conforme, il faut quand même savoir que dans 99% des cas, les logements qui sont visités ne sont pas conformes. Donc il y a vraiment une vraie légitimité à intervenir. Donc quand elle intervient dans un logement donc non conforme, elle peut prendre deux types de décisions, la DIRL. Soit, si le logement est améliorable et ne présente pas des manquements graves, elle va pouvoir mettre le bailleur en demeure de faire les travaux, et donc il aura 12 mois pour réaliser ces travaux-là. Mais si, par contre, le logement présente des dangers immédiats, imminents, elle va imposer une interdiction de mise en location. Alors, parallèlement donc à ça, elle peut aussi infliger des amendes administratives qui sont proportionnelles aux défauts constatés. Donc, plus le logement est en mauvais état, plus l'amende, évidemment, est lourde.
Voilà. Et est-ce que c'est efficace dans les faits?
Alors, l'amende, et ça c'est la DIRL qui le dit aussi, elle fait mouche parce qu'elle va évidemment faire bouger un certain nombre de propriétaires, mais il y a tout de même des bailleurs pour lesquels l'amende coule complètement, qui vont relouer malgré tout et recommencer, hein, malgré la sanction qui leur est tombée dessus, et qui par ailleurs, pour certains, sont des bailleurs qui ne vont pas payer l'amende. Et ce qu'on sait aussi, mais ça c'est pas à charge de l'ADIR, mais à charge de Bruxelles Fiscalité, c'est que les procédures de recouvrement forcées, hein, aller jusqu'au bout pour récupérer les amendes, ne sont pas assez mises en œuvre. Donc fatalement, ça donne quand même un mauvais signal à certains bailleurs qui savent que finalement, ils ne risquent pas d'être trop inquiétés. Donc il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Nous, on pense qu'il faut augmenter, donc sanctionner plus sévèrement les récidivistes, ça c'est une première chose, et poursuivre la récupération des amendes jusqu'au bout. Et quand je dis poursuivre jusqu'au bout, c'est-à-dire aller jusqu'à la vente forcée du logement si nécessaire.
Mais vous avez aussi bien évidemment d'autres pistes, hein, pour trouver des solutions, Carole Dumont ou RBDH, notamment la question du relogement.
Oui, alors ça c'est là à la limite on aurait dû commencer par ça parce que je pense que c'est vraiment le problème donc numéro un dans la lutte contre l'insalubrité, c'est-à-dire qu'on peut pas donc quand un logement est interdit à la location, fatalement il représente si pas un danger, en tout cas des conditions de vie absolument insupportables pour les locataires, et donc il devrait pouvoir partir pour un mieux. Or ici on a très très peu de perspectives de relogement. Mais donc si on veut intensifier la lutte contre l'insalubrité et risquer de fermer plus de logements, il faut des perspectives. Oui. Et ça, aujourd'hui, on n'en a pas.
Mais c'est ça le problème, parce qu'il n'y a pas assez de logements publics qui sont construits.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des logements de transit, hein, qui ne sont pas non plus la panacée, mais les logements de transit vont pouvoir permettre, par exemple, à des locataires de peut-être sortir plus rapidement d'une situation donc indigne. Mais ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, ce sont des logements durables dans lesquels ils vont pouvoir s'installer durablement. Alors, il faut savoir que dans les communes, il y a des logements, hein, le parc communal et des CP, c'est environ 9000 logements quand même, hein, comparé aux 45000 logements sociaux. Donc ça représente quand même quelque chose de tout à fait important. Mais ces logements-là sont des logements à loyer modéré ou moyen et qui sont destinés à d'autres types de publics. Et il y a certaines communes qui priorisent l'accès de ces logements aux victimes de l'insalubrité, mais pas toutes. Donc là, pour nous, il y a une piste. D'autant qu'il faut quand même savoir que quand un logement est interdit à la location par la DIRL, c'est le bourgmestre qui doit fermer le logement et c'est sur lui que pèse l'obligation de relogement. Alors c'est une obligation de moyens, pas de résultats, mais enfin malgré tout, on pourrait imaginer quand même que les efforts soient partagés par tous les opérateurs publics, comme une CPS, fonds du logement, etc.
Parce que pour le moment c'est pas le cas, mais c'est aussi pour ça que vous intervenez aussi auprès d'eux. Au RBDH.
Oui, tout à fait. Oui. Je voulais aussi rajouter peut-être au niveau du logement social, parce que ça aussi c'est une perspective, donc le logement social c'est régional. Bon là on sait qu'il y a 50 000 personnes, 45 000 je sais plus, enfin, ça monte tellement fort que c'est énorme en tout cas de gens qui sont en attente d'un logement social. Et quand le logement est interdit à la location, les locataires qui doivent quitter le logement obtiennent 5 points de priorité. Mais 5 points de priorité avec une liste d'attente de 50 000 personnes, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir accéder à un logement. Donc si les CPS doivent faire des efforts pour mettre des logements à disposition de ce public-là, il faut continuer au niveau régional à construire du logement abordable, du logement social.
Ouais. Alors c'est quel levier qu'on doit activer?
Alors donc
pour ça.
Ah bah il y a des plans logement, ces plans logement ils sont en cours, il faut mobiliser des terrains au profit du logement social. Là maintenant il y a une donc ça c'est difficile, je pense qu'on l'avait déjà expliqué dans le passé, mais qu'il y avait de nouveau quand il s'agissait du logement social, c'était souvent difficile de trouver les terrains à la fois au niveau des communes et même au niveau de la région. Mais il y a des nouvelles stratégies qui se mettent en place, notamment où la SLRB, donc hein, l'Institut régional qui s'occupe du logement social, achète des logements clés sur porte, donc des logements privés pour en faire du logement social. Ça permet d'aller plus vite, en tout cas, que de construire soi-même. Mais le gouffre est tellement important qu'il faut pouvoir...
Il faut mobiliser tout le monde en même temps.
Et je dirais que l'insalubrité, c'est aussi un problème structurel lié au fait que le logement est pris dans une logique de marché, le logement est libéralisé, donc c'est une marchandise qui s'échange, qui se loue au plus offrant.
Donc serpent qui se mord la queue.
Oui, et donc fatalement, il faut aussi travailler sur la question de la cherté des loyers, de l'encadrement des loyers dans le privé. Sur la discrimination, parce que la discrimination, c'est aussi une problématique qui crée des phénomènes de relégation et qui amène des gens vers des segments du parc où tout est permis, et donc notamment là où il y a des logements insalubres. Et donc il faut produire du logement social en masse, mais il faut aussi encadrer les loyers des logements privés.
Et pour encadrer aussi, là on revient sur votre étude, Carole Dumont, vous abordez la question du permis locatif.
Oui, tout à fait. Alors, le permis locatif, c'est une mesure qui est inscrite dans nos mémorandums depuis un certain temps, mais qu'on n'avait jamais mis à l'épreuve de la réalité. Et donc, la question qu'on s'est posée ici, donc j'ai expliqué ce que c'est que le permis locatif, évidemment, mais la question qu'on s'est posée, c'était de savoir si le permis locatif était véritablement un outil qui permettait de lutter contre l'insalubrité, mais contre les situations les plus aiguës, en fait. Donc, c'est quoi l'idée d'un permis locatif ? C'est en fait de conditionner la mise en location d'un logement à une visite préalable. C'est-à-dire que le bailleur ne peut pas louer ou relouer son logement tant que celui-ci n'a pas été contrôlé. S'il est conforme, pas de souci, il peut louer. S'il n'est pas conforme, il va devoir faire toute une série de travaux de rénovation. Donc ça permet d'alléger quand même la charge qui pèse sur les locataires quand ils doivent porter plainte par la suite. Et puis ça permet aussi d'agir préventivement avant que les logements soient occupés ou réoccupés. Donc en soi, c'est un outil intéressant. On pense que c'est un outil qui peut vraiment rehausser la qualité générale du parc locatif, qui peut permettre des réparations, des rénovations, mais ça reste un outil qui dépend d'une démarche proactive, volontaire du propriétaire. Or, et c'est évidemment ça qui nous intéresse aujourd'hui, les bailleurs qui mettent sciemment en location des logements insalubres, est-ce que eux vont demander leur permis locatif ?
Non.
Non.
Ça paraît évident.
Oui, voilà. Ça paraît évident. Donc, ça veut dire que ceux-là, de toute façon, ils trouveront toujours preneur pour leur logement. Donc, le permis locatif peut être intéressant dans la mesure où il va vraiment permettre d'améliorer la qualité des logements, mais c'est aussi un outil qui va se déployer, enfin qui demande du temps pour se déployer, qui demande des moyens humains très très importants dont on ne dispose pas aujourd'hui à Bruxelles. Et donc nous, on ne pense pas que ce soit en tout cas l'outil privilégié aujourd'hui pour lutter contre les situations dont on vient de parler aujourd'hui. Nous, on a essayé de chercher plutôt des solutions pragmatiques, peut-être plus réalistes et à plus court terme, qui répondent à l'urgence des besoins des locataires et qui permettent d'assainir plus rapidement le parc.
Voilà. Donc en tout cas, j'invite moi les auditeurs à lire votre étude, mais avant qui se retrouve sur le site rbdh.be, mais avant cela, Carole Dumont, vous voulez nous parler d'un rendez-vous important qui a lieu le 27 mars.
Oui, donc voilà, en fait, je voulais inviter tous vos auditeurs et auditrices, toutes vos auditrices à participer en fait à une grande journée de mobilisation pour le droit au logement qui aura lieu donc le dimanche 27 mars à partir de 16h à la place du jeu de balle. Donc c'est une journée qui est organisée à Bruxelles, mais aussi dans d'autres capitales européennes, à l'initiative de collectifs, d'associations et de particuliers qui sont engagés pour la cause du logement. Et donc voilà, il y a une manifestation qui est prévue et toute une série de moments d'échange, d'animation qui auront lieu à la place du jeu de balle. Donc si vous êtes interpellé personnellement ou pas par la question du logement, venez nous rejoindre.
Qui peut tous nous concerner en même temps.
Bien sûr, tout à fait. Mais oui, tout à fait.
Donc, oui. On connaît tous quelqu'un qui a été en situation ou est en situation de mal logement. Et c'est aussi par cette mobilisation-là que vous le voyez, que ça peut inverser la tendance aussi, Carole Dumont.
Ben en tout cas, ça permet de faire parler de la problématique, de la rendre visible, et ça permet aussi aux personnes de se réunir. Ça, c'est important aussi de faire nombre et de se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre cette problématique. Bien au contraire, que ça concerne énormément de gens. Et cette force-là, c'est important pour faire changer les choses.
Ça va très bien. Merci beaucoup, Carole Dumont.
Let's go. Bruxelles, ma Belge, Delphine Frécinet.